Chérie, on passe à table.
Allez, ça y est, c'est l'heure. Chérie, on passe à table, votre émission cuisine culinaire, donc le mercredi, avec aujourd'hui Edouard Christodo.
Bonjour Edouard. Bonjour à tous.
Bonjour, le chef du restaurant Le W à Saint-Clair, et puis le chef pâtissier qui est là également, Julien. Bonjour Julien.
Salut.
Bon, ça va, tout va bien?
Mon acolyte est heureux, regarde. Il est épanoui, je reviens.
Il est épanoui, puis en plus vous êtes là pour nous parler de bons petits plats. Aujourd'hui, on va parler des plats qui plaisent aux Français, donc on devrait parler à tout le monde, hein, concrètement.
Nous, on est très heureux par contre parce que c'est vrai que c'est la première qu'on fait aujourd'hui avec Guillaume.
Hein,
et on a une petite surprise pour Guillaume
qui
arrive dans 20 minutes.
Bon, 20 minutes, ok, on va pas en dire plus, c'est noté. Allez, dans 20 minutes, rendez-vous. En tout cas, bon, aujourd'hui, je vous le disais, on va parler des plats que plébiscitent les Français. De quoi on va parler, tiens, du coup? On va commencer par la blanquette de veau, c'est ça aujourd'hui?
C'est ça, aujourd'hui on va commencer avec la blanquette de veau parce que c'est un plat immortel, hein, tout le monde l'a mangé et tout le monde aime ce plat. Après, c'est ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure, je parlerai bien aussi du bourguignon, parce que mine de rien, le bourguignon, dans une région de vin comme ici, je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. Après, Julien, toi, tu avais envie de parler d'un plat de ton enfance, c'est ça?
Le hachis parmentier.
Le fameux hachis parmentier. Alors, il paraît que pour le hachis parmentier, il faut du hachis et du parmentier.
C'est ça.
Et voilà. Donc les plats assez conséquents quand même, plats plutôt de saison. Et puis on aura des plats un peu plus estivaux à la fin.
Voilà, on va parler des différents tartares. Alors forcément, pas que le bœuf, parce que c'est vrai que nous, par exemple, là au restaurant, on fait le tartare de deux canards avec les magrets fumés et le magret cru. On fait aussi les séviches. Les séviches, c'est ni plus ni moins qu'un tartare de gambas, de poisson, ça peut être ce qu'on veut. Donc on va vraiment axer là-dessus en fin d'émission.
Voilà, c'est des plats vraiment plébiscités par les Français. Aujourd'hui, c'est des plats...
Aujourd'hui, je pense que ce sont des plats qu'on fait souvent. Le bœuf, de toute façon, le bourguignon et la blanquette, c'est des plats qui l'hiver clairement cartonnent. Enfin, toutes les mamans savent le faire et c'est des plats qui sont assez simples en eux-mêmes. Après, c'est vrai qu'il y a des petits tours de main, des trucs comme ça. Ouais. Julien, le hachis, je pense que Julien nous fera mieux le hachis.
Ah, le hachis, ouais. Mais moi, j'en ai tellement mangé petit que j'en étais un peu limité.
Repu.
J'en pouvais plus.
Un petit hachis avec de la viande, c'est bon.
Hein. Mais depuis, là, quand on rentre du boulot, quand Mylène m'en prépare un ou deux, ouais, c'est vraiment...
Voilà, c'est plaisant, quoi. On va commencer du coup par la blanquette de veau. Comment on la prépare, la blanquette de veau, de manière un peu originale, justement?
Alors, parce qu'il y a deux... Tu viens d'amener un mot qui est génial, c'est un peu original.
Ouais.
Alors, moi, je vais donner une recette classique. Bien sûr, je vais donner une recette aussi de tout ça, à chaque fois, revue et corrigée, pour amener un petit côté excentrique à la recette. Mm-hmm. Ça me paraît évident. Donc, pour la blanquette de veau, alors déjà, il faut beaucoup d'amour et beaucoup de veau. Donc,
c'est essentiel.
Il va falloir aller chez le boucher, prendre de l'épaule et du collier.
Ouais.
Alors, c'est des morceaux qui sont relativement gras, c'est ça qui est pas mal. Après, vous allez avoir besoin de poireaux, de carottes, d'oignons, de clous de girofle, de petits champignons de Paris et de riz. Alors Julien, tu expliqueras le riz pilaf. Je fais la blanquette.
Allez, on y va. La blanquette.
La blanquette, c'est très simple. Déjà, quoi qu'il se passe, ça se fait jamais saisir une blanquette de veau. Vous prenez votre blanquette, tous vos morceaux, vous les mettez dans une casserole et une fois qu'ils sont dans la casserole, vous mettez de l'eau à hauteur et vous amenez à une première ébullition. Une fois que vous avez cette ébullition, vous allez faire ce qu'on appelle écumer au-dessus de la casserole, c'est-à-dire enlever toutes les impuretés à l'ébullition qui remontent. Et ça, vous allez la laisser bouillir à petit feu pendant 5-6 minutes. Une fois que ça c'est fait, on retire donc l'eau et la blanquette, on remet la viande dans la casserole, et là on remouille à hauteur. Faut faire deux... Ça se passe en deux cuissons.
Deux fois dans l'eau, quoi.
C'est ça, deux fois dans l'eau. Alors après, il y a différentes écoles, il y en a qui vont mettre du lait dans l'eau, vous pouvez... Mais bon, voilà, la recette de base, c'est de l'eau. Vous prenez votre carotte que vous allez couper en petits morceaux, vous allez mettre votre oignon que vous allez piquer avec des clous de girofle, donc vous allez renfoncer les clous de girofle dans l'oignon, et vous allez mettre votre poireau directement dans l'eau de la blanquette. Vous allez l'amener pareil à une ébullition, et à une ébullition, vous allez la laisser cuire tout doucement, et ça jusqu'à complète cuisson de la viande. C'est une bonne blanquette à feu doux, c'est bien 2 heures.
D'accord, il
faut vraiment que la viande se détache toute seule.
Ouais.
Une fois que ça c'est fait, au préalable, vous allez préparer donc à côté un temps pour temps, ce qu'on appelle nous un roux, farine et beurre. C'est-à-dire que vous allez prendre pour 1 litre de bouillon, grosso modo, 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre, vous allez faire fondre votre beurre, vous allez mettre votre farine dans la casserole et avec un petit fouet, vous allez mélanger. Vous allez voir, ça va commencer à un peu bouillonner dans le fond de votre casserole. C'est ce qu'on appelle du nid d'abeille. Alors le roux, il a trois couleurs. Il est blanc, il est blond ou il est brun. Donc là, on est sur un roux blanc. Il ne faut surtout pas amener une coloration à la blanquette. Donc, vous allez le laisser et au moment où vous voyez que ça commence à jaunir, vous arrêtez votre roux et vous commencez à verser votre bouillon tout doucement. Par contre, mélangez vite parce que ça va épaissir très très rapidement. Et il faut verser l'intégralité du bouillon comme ça dans le roux. Si vous voyez qu'il devient trop liquide, vous le remettez à réduire. De toute façon, le liant est dedans, clairement. Et là-dessus, bien sûr, vous allez rajouter votre viande de blanquette. Vous avez préalablement cuit vos poireaux, donc vos morceaux de poireaux cuits à l'eau, donc coupés en petits biseaux, vos carottes, les oignons. Moi, ce que j'aime bien sur une blanquette à l'ancienne, normalement, les oignons ne se font pas revenir. On fait les petits oignons glacés, les petits oignons grelots glacés. Et les champignons, on prend des petits boutons de Paris et on fait exactement la même chose. On les fait glacer, on les cuit, on les fait glacer et on les met sur notre blanquette.
Ouais, c'est ce qu'on voit traditionnellement en accompagnement.
C'est
ouais.
Ça. Alors après, il y en a qui vont rajouter des pommes de terre, des choses comme ça. Après, ça, c'est les légumes, c'est bien au goût de chacun. Moi, je mets pas. Voilà, je non. Reste vraiment sur la base.
Et tu parlais tout à l'heure de riz avec Julien, justement, c'est ce qui s'accompagne le mieux, le riz.
Le riz, c'est ce qui va le mieux avec la blanquette.
Ouais.
Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose. Moi, je sais pas. Moi, c'est ce que je préfère.
C'est un petit conseil d'ailleurs pour le riz.
Alors, le riz pilaf, c'est pas un riz qui est cuit à l'eau. Julien, il va vous l'expliquer.
Non, vas-y, t'as l'air très très bien parti.
Vas-y. Fais-le en bas.
Ça y est, il est content.
Pour une fois qu'il est là.
Très rapidement, le riz, du coup.
Donc, le riz, on va ciseler finement un oignon. C'est-à-dire qu'on va faire, on va faire des petits cubes d'oignons très très fins. On va faire déjà dans une grande plaque à four, on va faire revenir notre riz, on va le faire nacrer. C'est-à-dire que dans de l'huile, on va le faire colorer si vous voulez. Exactement. Il faut qu'il soit vraiment très très brillant, que toute la première pellicule autour commence à cuire et qu'à l'intérieur, on le voit encore, il soit cru. Là, on va mettre nos oignons, notre bouquet garni, donc thym, queue de persil, poireaux, tout ça attaché ensemble. Vous mettez ça dans votre plaque, du bouillon à hauteur
ouais.
Voilà, et vous mettez du papier d'aluminium, ça dans un four à 160 degrés, vous enfournez dedans et vous laissez réduire. Et normalement, si vous avez bien fait la proportion d'eau ou de bouillon de cuisson, si vous reste du bouillon en blanquette, vous pouvez très bien le mettre dedans. Vous allez avoir un riz qui va être tout cuit, ça va être très sympa en bouche et c'est vraiment le riz d'accompagnement de la blanquette de veau.
Voilà la recette pour le bœuf bourguignon et le riz, merci à tous les deux. C'était la première recette.
Alors ça c'était la blanquette,
voilà exactement, oui pardon, la blanquette de veau. Le bœuf bourguignon, on va en parler dans un instant effectivement après la pause. On a dit à peu près 2 heures pour cette recette de la blanquette, donc on peut commencer maintenant pour que ce soit prêt à midi concrètement.
Concrètement, alors c'est toujours mieux de le manger, de la faire la veille pour le lendemain une blanquette.
Hein. D'accord,
ça c'est bien.
Aujourd'hui pour demain midi alors.
Voilà, à réchauffer.
Eh bien c'est le thé. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant sur Chérie FM. À tout à l'heure. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines,
talking about a revolution. Chéri, on passe à table.
Chéri, on passe à table, toujours en direct de la Vallée du Rhône. Vous écoutez Chéri FM à Annonay Roussillon sur le 95.5 et à Valence et Romans sur le 94. On est toujours avec nos deux chefs du restaurant et Le W, et le chef Edouard et puis le chef pâtissier Julien. Aujourd'hui, on parle des recettes qui plaisent particulièrement aux Français. On a parlé de la blanquette de veau il y a un instant. Et puis aujourd'hui, on va parler maintenant du bœuf bourguignon, un plat encore typiquement français, Julien.
Ah ben ouais, bœuf bourguignon, ouais. S'il vient pas de France, c'est un problème.
Là on est mal,
c'est le nom qu'il indique, hein, voilà. Ouais. C'est un plat français. Pourquoi il plaît aux Français d'ailleurs? Est-ce qu'on sait pourquoi?
Bah, parce que c'est des plats conviviaux, quoi. Je veux dire, c'est un plat qu'on met au centre de la table et tout le monde se sert, c'est des choses qui rapprochent.
Sauf qu'à l'époque, il faut quand même pas oublier que dans les régions viticoles, le bœuf bourguignon, c'était le plat emblématique de ces régions-là. Ouais, et c'était aussi un plat, excusez-moi de dire ça, mais pour les riches, parce que tout le monde ne mangeait pas du bœuf.
Et
ça coûtait cher. Et mettre du vin dans un plat, c'était cher. Donc c'était un plat pour justement dans ce qu'on appelait les maisons bourgeoises à l'époque.
Et il s'est démocratisé au fil du
temps.
Beaucoup,
ouais. Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, on le sert par exemple dans des restaurants comme chez vous. Est-ce que vous arrivez à le revisiter?
Bien sûr, on le retravaille. Après, on le retravaille. Nous, on le travaille au bistronomique. Mais oui, tout à fait. C'est des plats. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais. Alors, comment vous le préparez justement? Une petite idée de recette ce matin. Toujours original, du coup, c'est l'intérêt. Ouais.
Alors, tout à l'heure, justement, on parlait de la blanquette, la recette originale. La toute petite variante pour la blanquette, pour amener un côté original, plutôt que de mettre la sauce comme ça, qui laque bien la viande, qu'elle soit bien blanche. Nous, ce qu'on fait, par exemple, au restaurant, c'est qu'on prend la viande, on prend les légumes, je laque un peu la viande d'un côté, et de l'autre côté, je mets la viande, je mets la sauce dans un siphon, et je mets la sauce au siphon dessus.
Voilà, moi j'aime ça toi, d'ailleurs, voilà. Souvent,
ouais. Mais même là pour le bœuf bourguignon, je sais que j'ai vu la dernière fois Edouard, justement quand il a commencé à penser à tout ça, il était parti sur cette idée, parce que le bœuf bourguignon en général c'est servi toujours avec des pâtes, des grosses tagliatelles, donc il était parti dans cette idée de ravioles ouvertes, où en fait on fait justement cette pâte à ravioles qui, où vous avez une couche en dessous, vous allez avoir cette garniture de bœuf qui va être justement retravaillée de telle manière à pouvoir limite être farcie, et en fait après on remet une raviole par dessus, on a cette raviole ouverte.
Alors comment on fait justement, comment on la prépare?
Alors donc il faut de la viande à bourguignon, hein, clairement. Il va vous falloir aussi donc la viande à bourguignon, c'est ce qu'on appelle des morceaux qui coûtent justement pas cher, hein. Des morceaux qui mettent très longtemps à cuire, à préparer la veille pour le lendemain. Il va vous falloir des lardons, des carottes, des oignons, des petites moi j'aime bien les petits oignons grelots, là on est en plein dedans, donc c'est vrai que là faut en mettre des petits, il y a deux trois petits champignons aussi, il y a ce fameux persil. Et justement, la garniture, donc nous, on utilise de la pâte à ravioles plutôt qu'utiliser des ravioles.
Alors, on la trouve facilement, la pâte à ravioles?
Oui.
On est dans une région quand même où on produit de la raviole en quantité.
C'est ça, ouais. C'est pour ça. Là-dessus, je ne m'inquiète pas, vous la trouverez vraiment dans toute boutique. Vous allez prendre, alors moi, ce que je fais pour mon bourguignon, déjà, je fais mariner la viande 24 heures avant. C'est-à-dire que je vais faire deux marinades. Une marinade à base de vin blanc et d'armagnac avec mes baies de genièvre. Et là, je laisse mariner 24 heures. Et après, je vais cuire au rouge. Donc, c'est-à-dire, je laisse mariner ma viande. Après, je vais faire saisir ma viande dans ma casserole, donc dans de l'huile d'arachide, mais vraiment à forte température. Voilà,
l'huile d'arachide et pas l'huile d'olive?
Non, surtout
non,
pas.
D'accord. Ah non.
Donc, vous mettez de l'arachide, vous la faites fumer.
Et pourquoi pas l'huile d'olive, d'ailleurs?
Parce que ça va parfumer ton bourguignon.
Voilà. D'accord. Faut une huile neutre.
Voilà. Faut une huile neutre, qui n'a pas de goût.
C'est ça, pépin de raisin.
L'huile d'olive apporte beaucoup d'amertume.
Pépin de raisin ou arachide, ce sera très bien.
Sans saveur ou sans goût particulier.
C'est ça. Vous faites vraiment saisir votre viande. Une fois que votre viande elle est saisie, vous faites exactement la même chose avec la garniture aromatique, c'est-à-dire les carottes, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, à part les oignons. Vous remettez votre viande, et là vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez singer votre, c'est-à-dire que vous allez mettre de la farine, clairement, sur le bourguignon. Là-dessus, vous allez mouiller avec du vin rouge, voilà, à hauteur, et là on va amener une ébullition et on laisse cuire tout doucement. La farine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire son rôle de liant, un peu comme le roux quand elle va cuire. Donc quand ça va réduire, votre sauce va commencer à épaissir. Mais quand je vous dis à petit bouillon, c'est vraiment à petit bouillon. Il faut y aller, ça se cuit 3-4 heures, hein, facilement.
D'accord.
Et moi, pour lier à la fin, pour mon petit truc à moi, c'est que dans une grosse casserole de bourguignon, je rajoute deux pastilles de chocolat noir. Deux guaranas de
chocolat noir.
Ouais.
D'accord. C'est vrai qu'on est dans une région où on produit du chocolat également.
Donc, bah, le chocolat est un liant qu'on utilise souvent pour le lièvre à la royale et tout autre. Donc c'est vrai que quand vous rajoutez deux pastilles de chocolat dedans, ça va apporter aussi une liaison. Et moi j'aime beaucoup le côté très ambré du guarana que peut avoir le guarana.
Mais là pour le coup ça va apporter une saveur, un goût particulier.
Bien sûr. Mais j'en mets deux pastilles, hein. J'en mets pas un paquet de 500 grammes.
Ouais, évidemment,
hein.
Voilà. Ça on peut le garder pour plus tard, le paquet de 500 grammes pour le dessert.
Voilà, pour le dessert par exemple, dont Julien nous donnera une jolie recette.
Wow. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement avec ça ou...
Ah ben non, parce que vous avez les légumes, vous avez la viande et la raviole. Alors moi, généralement, comme disait Julien, on va le cuire sur des tagliatelles fraîches, des choses comme ça, ou des pommes de terre. Moi, je suis plus à le mettre voilà, sur un carré de pâte à raviole. Je cuis ma pâte à raviole, tac, je la mets dans le fond de mon assiette, je mets ma garniture à bourguignon et je mets ma pâte à raviole par-dessus. Et avec la sauce, justement, je fais une écume que je viens mettre par-dessus pour donner un côté. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le petit toast à côté.
Ah, bah voilà,
le toast, hein. Le toast avec toujours le persil et l'ail dedans, qui est juste haché dessus, comme ça, et vous mettez ça dessus.
Un toast, quoi comme type de toast, du coup ?
Un petit toast de pain de mie.
Du pain de mie, voilà, du pain de mie grillé, par exemple.
C'est ça.
Ouais. Avec un toast.
C'est un toast.
D'ail et de pain de mie grillé.
Un toast, ouais.
Un toast, comme on dit.
Voilà. Et on le met sur le bord de l'assiette, et c'est vrai qu'on fait trempette dedans pendant qu'on mange la viande.
Ouais, on disait tout à l'heure qu'il faut quand même s'y prendre à l'avance, pareil que pour la blanquette de veau dont on parlait. Il y a quelques minutes, il faut se prendre la veille pour le lendemain, quoi.
Ouais.
Ça change quoi de la préparer la veille? Qu'est-ce que ça va
apporter? Si vous voulez, forcément, la viande dans sa masse continue à travailler clairement. Donc, si vous la laissez toute la nuit sur la gazinière, mais éteinte, la viande avec l'inertie qu'on lui a portée toute la journée, forcément, va continuer à travailler. Et le lendemain, votre viande aura les chairs de protéines vont se détendre, forcément. Donc, vous allez avoir une viande beaucoup plus moelleuse. Ce qu'il faut savoir, que si vous prenez du paleron comme ça, vous le saisissez et vous le mangez comme ça, c'est immangeable.
Voilà, bah écoutez, c'est noté. Merci à tous les deux pour cette recette. On va se retrouver dans un instant sur Chéri FM avec de la musique tout de suite.
Like
on passe à table.
Allez, aujourd'hui on parle des plats qui plaisent aux Français avec toujours Edouard Christodo et le chef pâtissier du restaurant Le W et Julien qui sont avec nous. Rebonjour messieurs, ils sont pris d'un fou rire, ça y est, on les a perdus.
Ah qu'est-ce qu'il y a ? Tu nous as perdus.
Pourquoi ? Alors, on a parlé en ouverture de la blanquette de veau, on a parlé aussi du bœuf bourguignon. Alors aujourd'hui on va parler à présent d'un plat assez conséquent quand même, le hachis parmentier. C'est quand même pas forcément un plat du mois de mai, mais bon c'est vrai qu'il fait pas très beau.
Julien, on peut,
on peut le manger au mois de mai, le hachis parmentier, c'est pas trop lourd
tout le temps.
Ouais, il y a pas de saison.
Non, enfin après moi je sais pas, moi c'est des plats qu'on peut trouver partout, c'est comme la lasagne.
Il a beau être au matinal,
il a mal. Je suis pareil, hein, vous savez.
Non mais là-dessus, non, il y a vraiment, moi j'ai pas de souci avec ça. Je trouve que le hachis justement c'est quelque chose. Ça passe tout le temps, ça plaît aux grands, ça plaît aux petits, c'est pas compliqué à faire en soi.
Pourquoi ça plaît aux petits d'ailleurs ? C'est vrai que ça plaît beaucoup dans les cantines.
Parce que c'est des saveurs qui sont pas... C'est pas marqué en goût. Quand vous mangez du bœuf bourguignon, bah vous avez ce côté vin qui ressort. Vous avez le clou de girofle aussi, qui est aussi qu'on retrouve présent dans la blanquette, qui sont des goûts très marqués. Alors que le hachis parmentier, au final, tout le monde aime la pomme de terre, tout le monde aime, on va dire, la viande hachée. Donc à ce moment-là...
Ouais, ça plaît plutôt bien, il n'y a pas de difficulté, donc il n'y a pas besoin de chercher forcément l'originalité pour plaire aux petits. Ouais,
alors Julien, est-ce qu'il n'y a que le parmentier de bœuf ?
Ah non, il y a le parmentier de tout, on peut faire du parmentier de poisson, on fait du parmentier de canard, on fait du parmentier de tout, ça non.
Du parmentier de tout, ouais.
Parmentier,
du
poisson, il faut savoir, qu'au départ parmentier, donc pour la petite histoire, je pense que tout le monde la connaît, parmentier c'est quand même le monsieur qui a décrété, enfin qui a réussi à montrer que la pomme de terre n'était finalement pas, parce que la pomme de terre c'est ce qu'on mange, c'est le tubercule, donc c'est ce qui est enfoui dans la terre. Donc les gens pensaient que c'était empoisonné. Donc à l'époque, au niveau du Moyen-Âge, quand on avait justement cette famine, la pénurie avec, qui découlait de la peste, on avait justement tout ça et on avait ce monsieur qui a décrété, qui a fait goûter la pomme de terre au roi, qui lui ensuite a décrété... que la pomme de terre était pas nocive et bien au contraire. Et
d'accord, ça c'est l'histoire, la mini histoire sur Chai FM.
C'est pour ça que maintenant tout ce qui a un rapport avec le mot parmentier veut forcément dire pomme de terre. Donc pomme de terre et surtout là pour le coup la purée de pomme de terre.
D'accord, donc quand on a un parmentier avec du poisson, on a forcément des pommes de terre.
Un parmentier de canard, un parmentier de bœuf, un parmentier de tout ce que vous voulez, c'est de la pomme de terre.
C'est pour ça que Julien, je l'appelle Monsieur Parmentier à place de l'appeler patate.
D'accord. Ah ouais, c'est plus subtil quoi quelque part. C'est plus subtil, ouais.
Il manquait pas.
C'est moins violent. Alors, bon, alors du coup, pour le hachis parmentier, il faut du hachis et du parmentier.
Il faut
c'est
du hachis et du parmentier. Ouais. Donc il faut tout simplement faire une purée. Donc la purée, on est vraiment sur ce mélange de pommes de terre qu'on fait cuire, vraiment très bien cuire. Après, à côté de ça, on fait là pour le coup, je sais que moi, ma petite amie, fait chauffer du lait avec un peu de crème et c'est ce qui va nous servir à détendre parce qu'on a la purée Robuchon où justement on utilise de la pomme de terre rate et on va y mettre autant de beurre que de purée. Alors que là, pour le coup, que de pommes de terre, pardon, oui. Donc c'est vrai que pour le coup, à ce moment-là, moi je trouve ça un peu lourdingue. Mais justement, on détend plus facilement avec de la purée et de la crème et du lait chaud.
Est-ce qu'on peut rajouter une touche de muscade d'ailleurs, comme on peut faire dans la purée ?
Alors normalement, dans une purée, il faut savoir une chose, qu'on ne poivre pas une purée, on la sale et on peut mettre de la noix de muscade effectivement dedans. Mais en aucun cas, il faut qu'il y ait du poivre dans une purée.
On ne poivre pas un féculent.
Donc du sel éventuellement, de la noix de muscade, mais pas de poivre. Ouais. Pourquoi d'ailleurs ?
Alors là, me demande pas, c'est Scoffy, il a décidé comme ça.
Voilà. D'accord, ok, voilà. C'est la cuisine, c'est comme
c'est ça.
Okay. Ben, moi, on met pas du poivre dans du riz, sur du riz, on met pas du poivre sur des pâtes, on met juste, on sale l'eau, et je veux dire, voilà, c'est des féculents, et le poivre n'a pas sa place.
D'accord, ça doit avoir un goût subtil, j'allais dire, ça doit arriver derrière, pas forcément...
Ouais, et puis même, ça doit pas être finalement très agréable, si on mange une purée, on s'attend à voir quelque chose de lisse, on va se retrouver avec un grain de poivre quelque part, les pâtes, c'est pareil, quand on mange des frites, c'est un truc bête, on met juste à la sortie de la friture pour enlever l'excès de gras, on balance du sel, mais on met pas de poivre. Donc,
tu veux pas nous donner ta recette, là, parce que...
C'est intéressant, alors on a parlé de la purée...
On parle de tout ça, donc après, moi, je sais que
c'est intéressant, ouais.
C'est la viande, pour le coup, viande hachée, viande de bœuf. Donc à ce moment-là, bien revenu, pareil, saisi avec justement des oignons qui ont été émincés, ciselés. Bien revenu, bien sué. Et ensuite, on y met notre viande pour y dégager son jus. On balance le tout.
On sue sans coloration, bien sûr.
Sans coloration, tout à fait.
Ouais.
Justement, pour avoir encore un peu plus de jus après sur le retour, on y met tout ça dans notre plaque, on recouvre de purée. Et moi, je sais que mon petit truc à moi, c'est quand même la chapelure.
Ah, la chapelure,
la chapelure,
ouais.
La chapelure qu'on met pas de fromage, la chapelure. Le fromage, ça... Ah ouais,
ça alourdit le fromage.
Ouais, ça met...
C'est ça, en fait, le danger, ouais. D'accord.
Je suis plus vicelard que ça, moi. Moi, je fais un jus gras. Donc, c'est un jus de rôti, généralement, parce que faut savoir que le hachis parmentier est le plat du dimanche, c'est le plat où on passe tous les restes. Donc, je récupère mon jus de rôti si j'ai fait un poulet la semaine, je le mets de côté, et je fais revenir ma viande avec mon jus de rôti, pour que ce soit vraiment onctueux. Donc, je fais suer mes échalotes et mes oignons sans coloration, une viande à hacher. Voilà, je la fais juste revenir, je la laisse comme il faut, et là je mets mon jus de rôti, je glace ma viande avec du jus de rôti. Et après je mets ma purée par-dessus, effectivement.
D'accord, voilà. Et là, au niveau des accompagnements,
je suis plus fromage, moi, compté dessus.
Salade verte,
ah,
ouais.
On a déjà tout, on a le féculent, on a la viande, avec le jus gras d'Edouard, on a la sauce. Enfin, on a ce côté un peu en sauce, vraiment pas sec, salade verte.
Justement, en parlant de salade, on est à l'approche de l'été, on va beaucoup manger de la salade, hein. C'est quand même
une
chance qu'on consomme.
Il y aura un sujet,
on va faire un petit teasing là justement ce matin. C'est quoi le type de salade qu'il faut privilégier, justement, la meilleure salade? Vous avez un conseil?
Éviter l'iceberg.
Alors tout ce qui est laitue et iceberg, moi je suis pas forcément pour, parce qu'il faut savoir que c'est y a eu des études qui sont faites dessus, c'est pas des salades qui sont riches en vitamines, en fer et tout ça. Moi je suis plus pour ce qu'on appelle de la pousse. Là en ce moment vous avez de la pousse de pissenlit, de la pousse de betterave, la mizuna, la pousse de moutarde. Vous avez vraiment tout style de pousse, vous trouvez ça chez vos primeurs. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une pousse de betterave est beaucoup plus chargée en fer, et forcément aussi en magnésium et tout autre, que la laitue, ce que j'appelle moi de la salade à la fin.
D'accord, voilà, donc plutôt les jeunes pousses, de la mesclun aussi, on peut, ou c'est pareil?
La mesclun, c'est un mélange de 7 jeunes
pousses.
C'est
un mélange de
salade. C'est un mélange de
salade. C'est un mélange de 7 jeunes pousses, la mesclun.
D'accord, donc on peut la conseiller en accompagnement, effectivement, du hachis parmentier, et puis on peut la conseiller également pour l'été.
Le problème de la laitue, c'est que vous allez rajouter une vinaigrette dessus, donc une vinaigrette, de l'huile, de la moutarde, tout ça, ça va être lourd. Là, une mesclun, c'est tellement bon, la jeune pousse en soi, que vous mettez un filet d'huile d'olive. Terminé, basta.
Voilà. Bon, bah c'est noté. Bah, merci à tous les deux. On va se retrouver dans un instant. Vous partez pas tout de suite. On a parlé, tiens, justement, de la salade d'été. On va rester en été. C'est vrai qu'il fait pas très beau aujourd'hui, mais on va se projeter un petit peu.
Ouais.
On va parler des tartares, et on verra que les tartares, c'est pas forcément que de la viande. Hein.
C'est ça, tout
voilà.
À fait.